Vacances. Le voici arrivé, le moment tant attendu.
Quand faut y aller. Merde.
Il y a eu du soleil, alors je suis descendu.
Il y a du soleil, il y a des nanas.
Cinérama.
Je vais vous tenir au courant des mesures qu'on va prendre.
À mon avis, il y aura des ouvertures.
Génial.
Je ne m'attarderai pas en vaine palabre, je serai bref et précis, je ferai feu à bout portant.
Tu pars pas en vacances?
Non, pourquoi?
Pas possible!
Nous dépendons énormément de la saison d'été, c'est vital.
C'est le seul point noir au tableau.
Je m'en fous!
Tout l'été, Cinérama. Blind test et actualité du cinéma.
Ouais, jamais très original dans ces moments-là. T'sais.
This is Cinérama.
Bonjour, l'été suit son cours. 10% des salles n'ont pas encore rouvert en France, hein, faute de films à se mettre sous la dent, mais d'autres tentent d'organiser une programmation avec ce que les distributeurs proposent. Dans cette émission, on parlera peu de l'actualité cinématographique. On vous présentera tout de même deux films, hein, l'espagnol Madre, en salle depuis le 22 juillet, et le thriller danois Exit. Mais l'essentiel de cette émission sera consacré à jouer au blind test sonore. On va rendre hommage aux acteurs qui nous ont quittés il y a peu. Ces derniers temps, on a eu l'occasion de rendre hommage à Michel Piccoli, Kirk Douglas et Anna Karina. Vous pourrez ainsi entendre 5 extraits de longs métrages issus de la filmographie de ces acteurs et actrices. Et si on commençait par le plus ancien?
Je me souviens pas du nom.
Cinérama.
Si vous voulez appeler ça comme ça.
Kirk Douglas s'est éteint le 5 février dernier à l'âge de 103 ans, après une carrière qui aura duré plus de 70 ans. On doit à l'acteur américain deux longs métrages et une présence au casting dans près de 90 films pour des rôles parfois marquants. On va s'en rendre compte avec ce blind test diffusé à l'occasion non pas de son décès, mais 4 ans plus tôt, à l'occasion de son centenaire. Et nous avions décidé, à ce moment-là, hein, en guise d'introduction, d'évoquer plus largement sa carrière. Voilà une belle archive.
This is Cinérama.
En toute hâte, nous avons préparé un mini-hommage à Kirk Douglas. Si je devais m'en tenir à moi, mes émotions, je parlerai de Kirk Douglas dans les deux films de Kubrick, Les Sentiers de la Gloire et Spartacus, puis dans quelques autres, dont des westerns. Mais il faut bien admettre que l'acteur américain né Isur Danielovitch, et donc oui, Kirk et Douglas sont empruntés, eh bien, a eu son âge d'or à partir des années 50 jusqu'à la fin des années 60. Après, on peut dire que sa filmographie est plus clairsemée. Mais normal, quand on n'est plus un jeune premier et qu'on explique à ses compagnons de tournage qu'on est né durant la Première Guerre mondiale, on ne peut pas tout jouer non plus. Alors si on la fait courte, Kirk Douglas doit d'abord s'extirper de son milieu d'exilés juifs venus de Biélorussie et entamer des études théâtrales. Alors pour les financer, il est lutteur de foire, autant dire qu'il doit s'accrocher pour obtenir dans les années 40 son premier grand rôle dans un film de série B, Le Champion. Il interprète un boxeur incorruptible et c'est un succès. Alors, ayant rencontré Lorraine Bacall quelques années plus tôt, eh bien, l'actrice va l'aider à grimper dans la hiérarchie des productions. C'est alors qu'il signe avec la Warner, puis la quitte quelques films plus loin, là de ne pouvoir tourner ce qu'il veut. Alors, on le voit dans un western de Howard Hawks, La captive aux yeux clairs, puis Les ensorcelés de Vincente Minnelli. Il manque l'Oscar du meilleur acteur, tout comme quelques années après avec un gros morceau, celui-ci, hein, Nous sommes en 55, avec La vie passionnée de Vincent Van Gogh, toujours avec Vincente Minnelli. Puis vient un western qui l'impose, Règlement de compte à Hockey Corral, avec Burt Lancaster, un acteur qu'il côtoiera pour plusieurs films et dans des styles différents.
There the outlaw band make their final stand, oh King Corral.
Alors la même année, il incarne le colonel Dax de l'armée française dans Les Sentiers de la Gloire, charge antimilitariste de Stanley Kubrick, un film qui sera projeté en France seulement en 75.
Pourquoi ne pas fusiller tout le régiment? Je parle très sérieusement.
Colonel, vous êtes à côté de la question. Nous ne voulons pas massacrer toute l'armée. Tout ce que nous voulons, c'est faire un exemple.
Oh, si c'est un exemple qu'il vous faut, prenez-moi.
Vous?
Oui, si c'est un exemple qu'il vous faut. Un homme fera autant d'effets que 100.
Alors son meilleur coup, il le fait peut-être avec Spartacus, vexé de ne pas avoir été choisi pour le rôle de Ben-Hur, qui est revenu à Charlton Heston. Et bien Kirk Douglas produit son propre péplum. Le tournage est compliqué, hein. Anthony Mann est débarqué. Kubrick, avec qui il a tourné Les Sentiers de la Gloire, eh bien reprend le film, un succès international.
C'est ton fils. Il est libre, Spartacus. Libre.
Alors, nous abordons les années 60 et le McCarthyisme. L'acteur, alors producteur de Spartacus, n'a que faire de la blacklist hollywoodienne qui met de côté les sympathisants socialistes. Alors, il insiste pour que le scénariste Dalton Trumbo soit crédité au générique de Spartacus. Dans le biopic qui lui était consacré au printemps, hein, le personnage de Kirk Douglas y apparaît sous les meilleurs traits. Alors, avec le scénariste rouge, il collaborera aussi à Seuls sont les indomptés. Voilà, et par la suite, eh bien, Kirk Douglas va triompher au théâtre pour Vol au-dessus d'un coucou et va enchaîner quelques échecs. Hein. Il tourne L'Arrangement sous la direction de Elia Kazan, première victoire avec Otto Preminger et Le Reptile avec Mankiewicz. Quand on lit ces quatre noms, on constate qu'il s'agit d'enfants d'immigrés, voire d'immigrés eux-mêmes, enfin, une fois qu'on sait que Douglas s'appelle Danielovitch. Voilà. Alors, comme il a été producteur et acteur, le voilà réalisateur. Au début des années 70, il réalise Scalawag, adapté de L'Île au trésor, c'est un échec, et deux ans après, un western intitulé Brigade du Texas, et c'est également un échec, et il arrête la réalisation. On dirait que Kirk Douglas est un homme mesuré. Par la suite, ses apparitions à l'écran eh bien, seront dictées, semble-t-il, par ses envies. Il tourne encore dans des films qu'il produit, comme Holocaust 2000 et Saturne 3. Il a beau être d'une autre génération, il parvient tout de même à s'offrir eh bien, deux rôles dans l'ère du nouvel Hollywood, chez Brian De Palma pour Fury, et son dernier grand succès pourrait être Nimitz, Retour vers l'enfer en 80, film mêlant guerre et science-fiction. Or, Kirk Douglas a beau être centenaire, il a réchappé à un accident d'hélicoptère. Il y a eu deux morts quand même dans l'accident. Un AVC, une attaque cardiaque. Les tournages pouvant vite devenir le contraire d'une maison de repos, l'acteur a tourné peu ensuite. Hein. Mais en 2003, il aura la force de jouer avec son fils Michael et son petit-fils Cameron dans Une si belle famille. Et son dernier film eh bien, sera Diamonds en 2004 aux côtés de Lorraine Bacall qui fut son amie et qui avait lancé sa carrière. Voilà, on a fait le tour très très rapidement donc de la filmographie de Kirk Douglas. Ça donne l'occasion de jouer un blind test, donc on va écouter 5 extraits de la filmographie de Kirk Douglas et on va commencer par un extrait facile.
Allons-nous faire comme les Romains? N'avons-nous donc rien appris? Que devenons-nous? Nous cherchons du vin alors que nous n'avons pas de pain.
Lorsqu'on a du vin, on peut se passer de pain.
Vous n'allez pas tous devenir des ivrognes et des bandits.
Que veux-tu que nous soyons d'autres?
Des gladiateurs. Une armée de gladiateurs. Une armée comme il n'y en a jamais eu. Un gladiateur vaut deux soldats romains. Ils n'ont rien à nous apprendre.
C'est vrai, nous avons battu nos gardiens, mais une armée romaine, c'est différent. Ils ont appris à faire la guerre, pas nous.
Mais nous battrons tous ceux qu'ils enverront contre nous si nous en avons la volonté.
Il faudra une armée nombreuse.
Nous aurons une armée nombreuse quand nous nous mettrons en marche. Nous libérerons les esclaves de toutes les villes et de tous les villages. Qui rassemblerait une armée plus nombreuse que celle-là?
Alors, bon, bah, c'était facile, évidemment.
Je pense que c'était Spartacus.
Eh oui, tout à fait. Bien joué. Deuxième extrait, peut-être moins facile.
Courage, professeur. Vous oublierez cette pêche quand vous verrez les filles de Saïgon.
On vous avait promis une prime si vous harponniez le monstre, maître Lang.
Ah, ça, il n'y a pas de danger que je la touche. De retour au pays, je m'embarquerai sur un baleinier qui voudra de moi. C'est pas la fortune. Au moins, je resterai pas à me curer les dents avec mon harpon.
Peut-être bien qu'on a eu de la chance, le monstre nous aurait coulé.
Non, j'entends. Peut-être beau joueur, professeur. Le poisson qui s'échappe est toujours le plus gros.
Ils sont à la recherche d'un monstre, c'est...
Le Nautilus, je crois. Non, le Nautilus, c'est le bateau.
Oui,
donc
c'est le bateau.
20 milieux sous les mers de Richard Fletcher.
Tout à fait. Film de 54, et c'est la première grosse production des studios Disney réalisée en prise de vue réelle. Et il y a des petits effets spéciaux avec un poulpe qui s'accroche au Nautilus à un moment. Un poulpe géant.
Ça n'a pas l'air bien fait, hein, quand on veut qu'on t'en parle.
C'est de 1954.
C'est un charme,
voilà,
certain.
C'est un petit charme. Alors, troisième extrait.
Pendant des années, tu le sais, chaque fois que je voyais quelque chose qui me touchait, j'éprouvais le besoin de le dessiner, de le coucher sur le papier. D'une façon assez grossière, mais peu importe. Maintenant, pour la première fois, je commence à me demander si ce ne serait pas là ma voix. Un homme ou une femme au travail. Des sillons dans un champ labouré. Des grèves balayées par le vent aigre sous un ciel jaune. Ce sont des sujets si difficiles et en même temps si beaux. Et comme cela vaut la peine de passer sa vie à essayer de saisir la poésie qui est cachée en eux.
Alors, le titre original, c'est Lust for Life, mais toi, tu l'as trouvé avec son titre français.
La vie passionnée de Vincent Van Gogh.
Voilà. Vincent Minnelli. Et donc, c'est un film qui, visiblement, eh bien, a chamboulé un peu notre Kirky. Voilà. Oh. Il a eu du mal à s'en sortir de ce rôle. Quatrième extrait.
À la vérité, je trouve que l'atmosphère de cet endroit est étouffante, déprimante, intenable. Je suis sûr que vous pensez la même chose, bien que pour d'autres raisons.
Je suis tout oui.
250 000 dollars feraient mon affaire, sans l'ombre d'un doute. J'irai dans un autre pays, peut-être au Mexique. Enfin vivre. Vous allez m'aider à m'évader, j'en ferai autant pour vous. C'est un bon marché.
Non, il n'est pas bon. J'aurai que la moitié du fric.
Vous voudriez tout garder.
C'est une preuve d'égoïsme.
Grand film, celui-ci.
Oui, de Joseph Mankiewicz, Le Reptile.
Dernier extrait maintenant.
Un feuilleton des années 40.
Et les infos de la Deuxième Guerre mondiale.
Part, Dieu sait pourquoi, on veut nous faire revivre les événements de 1941. Mais qui ça?
Les Russes.
Peut-être parapsychologique.
Excusez-moi, commandant, mais nous devons aussi considérer qu'il peut y avoir une autre possibilité.
Laquelle ?
La possibilité que tout ce qui se passe soit la réalité.
C'est ridicule.
Peut-être. Pourtant, nous avons un certain nombre de preuves à l'appui. Il ne faut pas barrer d'un trait de plume une explication sous prétexte qu'elle n'a pas l'air de plaire.
C'est le dernier grand film fait par Kirk Douglas, c'est...
Nimitz, Retour vers l'enfer ?
Oui, c'est ça.
De Don Taylor.
Oui, film de 80.
Cinérama.
Oh non, ça suffit, de quoi s'agit-il ? C'est une blague ?
Interview, chronique, blind test et tout le reste.
Merci.
Un peu avant Kirk Douglas, le 14 décembre dernier, c'était une actrice emblématique de la nouvelle vague qui nous quittait. Alors est-ce qu'il est plus facile de trouver les titres de la filmographie d'Anna Karina que de Kirk Douglas ? C'est ce qu'on va voir maintenant.
This is Cinérama.
Anna Karina est morte à 79 ans, c'est près de 50 films et 2 réalisations en 73 et 2007. La majorité de ses films, enfin, on la connaît surtout avec Godard, dont elle a partagé la vie. Et ce blind test bien se veut surtout un petit clin d'œil à sa filmographie. C'est très facile, on commence.
Ma ligne de chance, ma ligne de chance. Dis-moi chérie, qu'est-ce que t'en penses ?
Ce que j'en pense, quelle importance. Tais-toi et donne-moi ta main. Ta ligne de hanche.
Ma ligne de chance.
C'est un oiseau dans le matin. Ta ligne de hanche.
Ma ligne de chance.
L'oiseau frivole de nos destins.
Quel film ?
Pierrot le Fou, 65.
Oui.
Elle n'a pas fait de musique après ça, rassurez-moi. Elle n'a pas,
si.
Elle a pas
si,
chanté.
Elle
était chanteuse. Wow.
J'ai un album avec Catherine aussi. Oui. J'ai composé entièrement
oui,
un de ses albums.
Effectivement, dernièrement, oui. Oui. Allez, tu es éliminé de... Allez, deuxième extrait.
Tu préfères manger du poisson ou de la viande potinée ? Émile !
Du poisson.
Et qu'est-ce que tu aurais préféré si tu avais voulu de la viande ?
Je sais pas, du veau.
Et si tu avais voulu du bœuf au lieu de veau, tu aurais choisi un beefsteak ou un rôti ?
Moi, un beefsteak.
Et si tu m'avais dit rôti, tu l'aurais aimé bien cuit ou très saignant ?
Très saignant.
Eh bien, mon chéri, tu n'as pas de veine parce que justement, mon rôti de bœuf est un peu trop cuit.
Tout ça pour ça.
Une femme est une femme, oui. Godard, de nouveau.
Et on écoutait donc Anna Karina et Jean-Claude Brialy. À noter que là, on entend bah, son accent, elle est née au Danemark. Allez, troisième extrait.
J'étais plus jolie que mes sœurs. Mes parents en étaient affligés. Je les avois 15 ans. Un jeune homme courtisait ma sœur. Je m'aperçus que je lui plaisais. J'avertis ma mère. 4 jours après, on me mettait au couvent. J'y suis restée 2 ans, jusqu'à ma profession. On dit que mon père, ma mère sont des gens honnêtes. Ils sont aimés, respectés. Alors, pourquoi avec moi ?
Alors, il y avait un gros indice, ça a été trouvé.
La religieuse Jacques Rivette.
Et c'est le cas le plus retentissant de censure d'État qui ait jamais frappé en France la création cinématographique. Ça, c'est un article du Monde de mai 2018 hein, pour à l'occasion de la sortie de la copie restaurée de ce film de Jacques Rivette, donc de 66, effectivement. Quatrième extrait en musique.
Les hommes, ils aiment les femmes. Les femmes, elles aiment les hommes à femme. Une femme sans homme à la froideur. Un homme sans femme, il reste en peine.
Mais toujours la femme arrive près d'un mari qui est comme la pluie. Froide et la plus chaude des brunes, près d'un mari qui est comme la lune, près d'un mari cousu de thunes. Froide et la plus chaude des blondes, près d'un mari à tête ronde, près d'un mari comme tout le monde.
La vie s'envole et quand on s'affole, hélas il est trop tard d'agiter son mouchoir.
Alors beaucoup de comédiens dans ce film de 1963. Il y a Francis Blanche, il y a Guy Bedos, il y a Jean-Paul Belmondo, il y avait aussi Anna Karina, c'est Dragé au poivre de Jacques Baratier, que tu n'as pas vu alors.
Je n'ai pas vu.
Ah, ben alors, ce sera l'occasion de le revoir pendant ces fêtes. Dernier extrait.
Mais qu'est-ce que je dois faire exactement ?
La prostituée fait commerce de ses charmes, elle s'efforce de gagner le plus d'argent possible, d'avoir une clientèle dont elle tirera profit et de réaliser les meilleures conditions d'exploitation.
Est-ce que c'est important d'être belle ?
La beauté n'est pas indispensable pour une prostituée. Elle a néanmoins un rôle important dans sa carrière. C'est son physique qui classera une fille dans la hiérarchie de la prostitution et surtout qui attirera sur elle l'attention des proxénètes. L'attrait physique de la femme étant susceptible d'être pour eux la source d'immenses profits.
Voilà, gros indice. Donc c'est trouvé.
Alors après avoir dit 5 fois vivre sa vie, je suis enfin tombé juste.
Oui, film de 1962 de Jean-Luc Godard, encore une fois. Voilà, ainsi s'achève ce blind test autour de la filmographie d'Anna Karina.
Cinérama.
Il est votre sac.
Interview, chronique, blind test et tout le reste.
Est-ce que je suis clair ?
Il n'a pas atteint l'âge de Kirk Douglas, mais il a à peu près le même nombre d'années de carrière et 2 fois plus de films à son actif. Michel Piccoli nous a quitté le 12 mai dernier à l'âge de 94 ans. On lui a bien sûr consacré un blind test à cette occasion. En voici la rediffusion, si vous l'aviez manqué.
This is Cinérama.
Vous, chers auditeurs, vous allez pouvoir jouer à découvrir 5 titres de la filmographie de Michel Piccoli, plus de 70 ans de carrière, avec quand même les plus grands films dans les années 70 et 80. Et on rappelle donc que Michel Piccoli est décédé à l'âge de 94 ans, c'était le 12 mai dernier. Premier extrait.
C'est ça l'évolution urbaine, mon petit garçon. Les autres, ils n'ont qu'à s'installer plus loin. C'est ça, s'adapter, t'as compris ?
Non mais je vais pas entendre déconner toute ma vie. Recevoir des leçons imbéciles jusqu'à la fin des temps. Écoutez, un écrivain qui n'écrit rien, un boxeur qui veut pas boxer, des bonnes femmes qui couchent avec n'importe quoi, merde! Et quand on s'est parti, celui-là qui va rester avec sa danseuse, quel genre mécanique, qu'est-ce que j'en ai à foutre?
Écoute, François, écoute...
Ta gueule, toi! Tu m'emmerdes, toi, je t'emmerde! Je vous emmerde tous, hein, vous dimanche, petit chico à la con! Merde!
Sûrement une des séquences de Michel Piccoli les plus célèbres, en tout cas sa colère la plus célèbre au cinéma, ça a été trouvé.
Alors c'est Vincent, Paul, François et les autres de Sautet, oui. Je crois que c'est de 74, oui. C'est ça ?
Yves Montand, Michel Piccoli, Serge Reggiani, qu'on entendait donner la réplique à Michel Piccoli, et puis Gérard Depardieu et Michel Piccoli interprète François, un médecin désabusé. Deuxième extrait de ce blind test Piccoli.
Mais monsieur Carmona, je m'en fous de Carmona. Il n'y a pas de Carmona. Mais les Stéphanie, les Petrelles, les Garde-Bois, les Lacages, toutes ces ordures qu'on connaît, qui pillent et qui tuent en ce moment sous notre nez. Ils vont continuer. Pourquoi voulez-vous qu'ils arrêtent? Puisqu'on ne peut rien faire.
Ce sont des professionnels, monsieur. Des gens qui exercent leur métier d'une façon parfaite.
Nous aussi, on fait notre métier. Du mieux qu'on peut.
Peut-être, monsieur, mais on ne sert à rien tant qu'on ne les prend pas en flagrant délit. On ne sert à rien.
Je ne sers à rien.
Michel Piccoli, qui décide d'arrêter une bande de malfrats amateurs, il leur tend un piège afin de pouvoir les surprendre en flagrant délit. Manu.
C'est encore un Sautet, ça. C'est encore. C'est une chose de l'air. C'est Ferrailleurs.
Film de 71. Guillaume, tu es toujours avec nous, mais. Bon, faut dire que tu as un concurrent sévère à côté de toi. Et, chers auditeurs, on va continuer avec le 3e extrait de ce blind test spécial Michel Piccoli.
Une fois, j'ai vendu un dédenté, 1 million de nos francs.
Vous avez vendu un dédenté ?
Un timbre.
Ah, les dents. C'est une belle somme, ça. Et qu'est-ce que vous en avez fait ? Ah bon ? Une danseuse ?
Une voix. Elle m'a tout bouffé. J'étais un poésie lyrique, moi, sur les femmes qui m'ont perdu.
Oh là là. Ne parlez pas de ça.
Ça, la vôtre, elle est un peu trop jolie.
Comment ça ?
Vous remarquez, moi, si c'était à refaire, je faisais à des femmes résignées. Des beautés intérieures.
Vous la trouvez jolie, ma rose, hein ?
Un avion, elle est simple, cher. Une sans escale. Une fusée.
10 500. Ça veut dire qu'il devient cadre, notre lume.
Cadre supérieur, son rêve.
Jean Poiret qui invite pour un week-end et bien
ah,
tous
que
ses
les gros salaires lèvent le doigt.
Oui. Qui invite donc tous ses employés dans sa maison de campagne. Il cherche à déterminer lesquels de ses cadres, donc les gros salaires, il devra licencier pour préserver son entreprise. Effectivement, c'est que les gros salaires lèvent le doigt de Denis Granier de Fer, sorti en 82. Allez, un autre extrait de la filmographie de Michel Piccoli.
Écoutez, un chirurgien qui opérerait sur la certitude absolue d'être en mesure de le faire, moi j'appelle ça un assassin.
Pas d'après le code.
Quel code ?
Prenez le cas du docteur Berg, dont toute la ville parle. Il a cessé d'opérer quand il a senti que ses yeux le lâchaient.
C'est pas une question de code !
La rétinite. Il n'y avait pas de rétinite. C'était pas une question de santé. Alors c'était quoi ? Le poker. La flambe. Des dettes, très grosses dettes. Des conneries. Je peux en parler, j'étais sur l'affaire.
Michel Piccoli, encore médecin dans ce film. Manu, t'as trouvé?
C'est dans le thriller 7 morts sur ordonnance de Jacques Rouffio.
Sorti en 1975, et eh bien, il y a encore Gérard Depardieu. Enfin, je veux dire, par rapport au film de Claude Sautet, Vincent François, Paul et les autres, avec lequel nous avons commencé ce blind test, et maintenant il va s'achever. Alors, avec un clin d'œil déjà à l'émission, et puis sans doute quelque chose de facile à trouver.
Je suis obligé de répondre.
Absolument pas, vous êtes absolument libre de garder secrètes vos motivations.
Mais, et remarquez quelquefois, hein, j'ai pas honte, quelquefois je sors dans la rue avec mon pistolet dans la poche comme ça. Je marche, et je me dis que le premier qui me chercherait, je le crève à bout portant.
C'est délicieux, nous avons tous nos petits fantasmes.
Cette dernière phrase est reprise dans le générique de Cinérama, le générique d'introduction de l'émission. Donc ça a été trouvé.
C'est le prix du danger de Boissé, film de 82.
83.
Enfin, le film est de 82, mais il est sorti en France en 83.
En tout cas, les spectateurs l'ont vu en 83. C'est cette référence que nous allons prendre. Donc tu as perdu un demi-point. Voilà, donc film avec Gérard Lanvin et Marie-France Pizier, pardon, et Bruno Kremer. Et là, eh bien, lui, il interprète un animateur d'un jeu télévisé absolument cruel. Ainsi s'achève ce blind test spécial Michel Piccoli. On pourrait en faire à peu près toutes les semaines jusqu'à la fin de l'année, mais on ne va pas le faire. On trouvera d'autres occasions, en tout cas peut-être d'y revenir sur sa filmographie.
Voyez ce que vous pouvez nous concocter de beau dans ces 5 minutes.
Cinérama,
c'est un passe-temps surprenant.
C'en est fini de la séquence des blind tests. On retrouve maintenant l'actualité des sorties, seulement deux films, et bien différents. Le thriller de l'été, comme il est vendu, hein, et puis Madré, film espagnol tourné dans les Landes. C'est Marine qui nous en parle.
This is Cinérama.
Ça fait combien de temps que je suis là? 10 ans.
Juan, amor, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Dónde estáis hoy? ¿Qué vais a hacer?
En la playa.
Et comment ça se fait? Enfin, si je peux me permettre. Comment ça se fait qu'une Espagnole se retrouve ici pendant 10 ans ?
Un jour, Elena, une jeune mère espagnole, reçoit un appel de son fils de 6 ans. Il est sur une plage dans les Landes, en France, et au fur et à mesure de la conversation, elle commence à comprendre que quelque chose cloche. Son père, l'ex d'Elena, semble parti, la nuit va tomber, et des présences inquiétantes rôdent sur la plage. Suite à cette conversation téléphonique, l'enfant disparaît sans que l'affaire ne soit jamais élucidée. Elena, 10 ans après, s'est installée dans les Landes et travaille comme serveuse sur la plage où le drame a eu lieu, traumatisée par l'événement. Un jour, elle rencontre un jeune garçon de 16 ans qui lui rappelle son fils, commence alors à se nouer entre eux une relation plus qu'ambiguë que la famille du jeune garçon va voir d'un très mauvais œil.
Vous n'êtes pas française ? Espagnole ?
Ouais.
Ah ouais ? Vous savez que je parle espagnol ? Yo me llamo Jean.
Bonjour.
Bonjour, Grégory.
Elena.
C'est lequel le vôtre ?
Aucun.
Rodrigo Sorogoyen, l'une des têtes de proue du nouveau cinéma espagnol, revient avec un film à la croisée des genres après les deux thrillers qui l'ont fait connaître, Que Dios nos pardonne et El Reno. La première scène, plan séquence et la limite du soutenable, vaut à elle seule de voir le film. Il s'agit en réalité d'un court-métrage de Rodrigo Sorogoyen primé aux Oscars qu'il a décidé de décliner en long-métrage plusieurs années après, toujours avec la complicité de la comédienne Marta Neto qui interprète ici Elena. L'atmosphère de Madré est très travaillé, que ce soit par le son ou par l'image. C'est d'ailleurs vraiment un film à voir au cinéma. Le cinéaste a fait le choix de plans très larges et de l'utilisation du grand angle, isolant ainsi ses personnages dans son cadre, filmant la côte des Landes de façon quasi inquiétante. Madré est un film ambitieux, impossible à enfermer dans un seul genre, liant drame intimiste et thriller psychologique, qui confirme l'importance de Rodrigo Sorogoyen dans ce nouveau cinéma espagnol.
Sortez d'ici! C'est des malades!
Merci, mais c'était que aucun, non? Non, c'est pas les non?
Madré est dans les salles depuis le 22 juillet. On termine avec ce qui est annoncé comme le thriller de l'été. On s'enfonce avec une journaliste dans le chantier du métro de Copenhague, mais pour y rester bloqué.
Si vous aimez les essuie-glaces et les tranquillisants sur pellicule.
Cinérama.
Je suis allergique!
C'est l'heure de s'enfermer loin, très loin sous terre, pour se rendre dans le chantier du métro de Copenhague. Ce programme, il vous est offert par le Danois Rasmus Klosterbro, dont c'est le premier film. D'ailleurs, ce titre français, Exit, se cache en fait un titre plus incisif, Cutterhead, qui signifie tête coupante ou tête porte-lame, quelque chose qui ramène à l'action de couper pour libérer une voie ou un espace. On comprend que le distributeur a préféré une appellation plus parlante pour les spectateurs français, mais on aurait quand même pu avoir quelque chose de moins générique. Exit raconte l'histoire de Ri, une journaliste artiste, cela ne nous est pas vraiment plus développé que ça, qui a la bonne idée par un jour pluvieux de s'enfoncer dans le chantier du métro de Copenhague pour faire un reportage sous forme de portrait. De son propre aveu, elle veut raconter de jolies histoires sur ce lieu de travail qui a une particularité non négligeable pour la suite, c'est qu'il est activement européen. Plusieurs nationalités se croisent, italiens, africains, croates, et travaillent dans des conditions parfois complexes et difficiles au sein d'une entreprise gigantesque. Au début, tout se passe bien. Elle suit attentivement son guide qui lui montre un petit peu tout ce qui occupe le quotidien des ouvriers, et elle a même l'occasion d'en interviewer plusieurs. Certains se prêtent au jeu, d'autres sont plus dubitatifs, mais au fond, peu sont vraiment loquaces ou pertinents face à ces questions stéréotypées et banales au possible. Alors qu'elle découvre la délicate manœuvre du passage d'un endroit à un autre via une chambre de décompression, l'impensable se produit et un départ de feu va l'isoler 100 pieds sous terre. Son seul avantage est que, dans son malheur, elle n'est pas toute seule et est accompagnée de deux ouvriers plus ou moins habitués des lieux, mais cet avantage va tourner au drame humain lorsqu'il va être question de survie. Et oui, lorsque le feu va progresser ou que l'air va commencer à manquer, tout ce beau monde va se poser des questions quant à savoir s'il faut continuer à respecter une certaine éthique et aider son prochain, ou ne penser qu'à soi pour espérer voir le bout de cette aventure vivant.
Can I ask you some questions?
Yes.
What's the best thing about your job?
Avec un nom pareil, quelle que soit la nationalité, on pourrait s'attendre à ce que Exit file droit vers son but, surtout en affichant une durée de moins d'une heure trente au compteur, mais c'est pas le cas. Le film met environ une bonne grosse demi-heure à se mettre en place, faisant durer les plans et les actions routinières des ouvriers avant que le drame n'éclate. Si les scènes d'exposition avaient de quoi placer astucieusement des pions sur des histoires et des personnages pour mieux les exploiter par la suite, il n'en est rien et on doit souvent faire avec ce que l'on a. Comme je l'ai mentionné plus tôt, Ri a une fonction un peu floue, aussi floue que la psychologie de ses deux camarades d'infortune, qui ne lâcheront qu'une ou deux maigres informations les concernant tout le long du film. Ce procédé peut évidemment marcher, comme c'est toujours le cas chez John Carpenter. Le cinéaste américain, on le sait, est un maître de l'identification en un clin d'œil, ou de la caractérisation de protagonistes avec une cigarette, un regard en coin ou bien une posture équivoque. Et bien ici, c'est donc le premier gros écueil contre lequel Rasmus Klosterbro s'écrase. La mise en scène, quasiment intégralement composée de plans captés à l'épaule, brise toute iconographie des lieux et narration visuelle caractérisant les personnages car elle ne convoque jamais les règles précises du genre dans lequel le film s'inscrit et, pire encore, de grammaire cinématographique tout court. Alors les sauts dans l'axe, les points mous, aucun sens de gestion de l'espace, la tremblote intempestive singeant la mise en scène documentaire d'un autre âge. Bon, on ne filme plus les documentaires comme ça depuis des années. Donc ça agresse continuellement nos yeux. Le final, dans sa quasi-intégralité, ne nous épargne même pas des plans en GoPro, ce qui frôle quand même un peu l'insulte dans un spectacle de cinéma qui se veut immersif. Donc bon, voilà, on dirait même parfois du found footage, c'est dire. Cette réalisation désagréable ne pourrait être que secondaire si on décide d'oublier des travaux esthétiques comme The Descent, Buried ou bien soyons fous, Daylight avec Sylvester Stallone, et pourrait même participer à la compréhension du mauvais moment que passe l'héroïne. Le simple aspect survival aurait suffi à nous faire comprendre beaucoup de choses, mais Exit s'aventure dans sa deuxième partie sur les terrains du film métaphorique et c'est là que la vraie catastrophe arrive. On comprend alors que la vraie intention est de faire de ce chantier défectueux une image de l'Europe et de ses travailleurs immigrés qui entretiennent des relations dysfonctionnelles. Vu qu'absolument rien n'est creusé, si ce n'est une vague ébauche de lutte des classes entre une privilégiée et deux pauvres, seulement réunis par la peur de ne plus voir leurs enfants, il est bien difficile d'en tirer un discours pertinent. Que veut-on vraiment nous dire? Que le projet européen cache des zones d'ombre peu avouables? Que sous des pressions invisibles, il prend feu? Que nous sommes menacés d'ensevelissement et d'étouffement? La morale, à défaut d'être claire, est peu enthousiasmante. Elle va même à l'encontre des canons du genre du film catastrophe, qu'il veut que, même s'il y a des brebis galeuses, il faut être soudé pour s'en sortir, car l'union désintéressée fait la force de l'humanité. Exit se voudrait réflexif, mais pour cela, il faudrait soutenir ses propos avec de vrais arguments développés. Pire encore, le choix esthétique revendiqué et assumé de taper dans l'anti-spectaculaire enfonce un peu plus la sévérité de notre jugement assez profond sous terre. Car à vouloir prendre de haut un genre en essayant de le rendre plus intelligent, on rate même la plus simple des propositions que l'on retrouve dans cette forme habituellement exploitée par les blockbusters, à savoir une mise en perspective de ce qui fait notre humanité face à une situation extraordinaire. Exit, sans passer par la case départ, donc.
Eh bien oui, parfois, un film n'arrive pas du tout à convaincre, alors ça ne veut pas dire non plus qu'il est parfaitement nul, hein, et n'hésitez pas à consulter d'autres avis. Exit est dans les salles depuis le 15 juillet.
Au revoir.
Au revoir.
Au revoir.
Ça s'impose.
Mais pour quelle raison?
Qu'est-ce que vous racontez? Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire?
Je ne connais pas la réponse moi-même.
Comme vous êtes bizarre.
Oui.
C'est difficile de répondre.
C'est une plaisanterie.
Ainsi s'achève Cinérama. La semaine prochaine, on reprend la même recette des blind tests pour jouer et l'actualité du cinéma pour vous inciter à aller dans les salles ou en plein air.
This is Cinerama.